connaissez les conjugaisons? Combien, voilà, les conjugaisons? Combien, en tant que British anglais, je souffre et j'ai souffert pour apprendre comment conjuguer les verbes irréguliers si souvent. Hein? Becherel. Et donc ce matin, on va apprendre à conjuguer des verbes. Mais il n'y a qu'un verbe, mais c'est le verbe le plus important. Aimer. Et donc, je t'aime. Hein? Tu. Aimons-nous. Il faut que j'aime. M'aimes-tu? Aimons-nous les uns les autres. Bon, aimer en français, c'est facile. Mais allez, est-ce qu'on ose aller jusqu'au grec, hein? Apprendre le grec ce matin et aimer en grec, parce que quand même la Bible est écrite en grec et il y a une richesse dans cette langue qu'on ne trouve pas toujours uniquement dans le français, ni l'anglais, ni d'autres langues. Et donc, voilà, il y a trois mots en grec pour aimer, d'accord? Je pense que vous les connaissez déjà certains. Et donc, je commence avec le plus passionnant, l'éros. Hein? Et donc, éros, c'est l'amour physique. Et ça, c'est le cadeau de Dieu. Il a donné à Adam une belle femme. Il a dit, multipliez-vous. Le commandement de Dieu était de s'aimer. Il a dit, c'est pas juste pour la procréation, c'est pour que l'homme soit pas seul. C'est quelquefois, on a dit, l'amour physique, c'est uniquement pour la procréation. Uniquement pour procréer, il ne faut pas prendre du plaisir. Quel péché de prendre du plaisir. Mais Dieu, il a donné, bien sûr, on va peupler la terre, mais c'est aussi pour que l'homme ne soit pas seul et la femme ne soit pas seule, qu'il y ait une intimité, une vie partagée. Et le don de l'amour physique, c'est magnifique. Bien sûr, encadré dans la solidité du mariage, dans des relations de fidélité, c'est magnifique. Mais allez, et donc Eros, hein? Donc, il faut faire deux S. Hein. Géros, tu éros, nous hérissons. Mais ce n'est pas avec un hérissant hein, que nous hérissons. Et donc, nous hérissons, hérissons-nous. Voilà, à deux. Éros, vous avez géros, etc. D'accord. Après, philéo. Et donc, j'ai fait philéoé, d'accord. Et donc, je filéo, tu filéo, nous filéons. Il faut que je filoïsse. Voilà, filéo, je filéo. Et après, vous connaissez l'amour agapé. Et donc là, j'ai fait agapé. J'agape, tu agapes, il agape, ils agapent. Nous agapons, vous agapez. Agape, j'agape. Mais donc, géros, je filio et j'agape. Et donc, l'amour, et l'amour physique, filio, c'est l'amour fraternel, c'est beau aussi. C'est l'amour des frères, c'est l'amour des sœurs, c'est la loyauté. Mais l'agape, oh là, c'est l'amour qui coûte quelque chose. Ça, c'est l'amour qui s'attache à l'obéissance. Vous savez, c'est l'amour qui n'est pas juste un sentiment, mais c'est une action de notre volonté pour aimer. Même si ça nous fait mal, j'aime quand même. Et donc, ça, c'est un amour où il y a une croix au centre. C'est un amour là où il y a le sacrifice. C'est l'amour dont Jésus parle. C'est l'amour de la croix. Et donc, quand je réfléchis à agapé, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas toujours à l'auteur de cet amour. Et ça, c'est un peu mon sujet de ce matin. Quand on n'est pas à la hauteur de nos aspirations. Peut-être que vous êtes toujours à l'auteur de vos aspirations. Et moi, j'ai beaucoup d'aspirations. Moi, je suis un homme qui aspire avec mon aspirateur. Non, j'aspire. J'aspire à beaucoup de choses. Je rêve, j'aspire à beaucoup de belles choses. Et je suis très dur avec moi-même souvent, parce que j'aspire à une certaine vie pour moi-même, et quand je ne suis pas à l'auteur de mes aspirations, et surtout quand je ne suis pas à la hauteur de l'amour, n'est-ce pas, dans mes relations, quand je ne suis pas à l'auteur. Et donc là, Jésus, il est très clair, hein, en Jean 15, verset 9, il dit « Demeurez dans mon amour ». Ah oui, Seigneur, je veux demeurer dans cet agapé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, voilà, l'obéissance, l'amour qui obéit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, mais est-ce que tu obéis? Je t'aime, Dieu. Mais est-ce que tu obéis à ces commandements? Parce que c'est, tout le monde peut dire « je t'aime », mais cet amour agapé, il y a aussi une obéissance. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et après, verset 12, voici mon commandement, conjugue l'amour. Aimez-vous les uns les autres, voilà, comme je vous ai aimé. Et après, ça devient un peu dur, hein. Il n'y a pas pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est là, on a vu le côté obéissance, mais là, non, on voit le côté sacrifice. Le pardon, c'est toujours mourir un peu. Hein. Mourir un peu à nos doigts, notre orgueil. Il y a toujours beaucoup d'enjeux. Et c'est jamais facile. Hein. Comme je dis, moi, qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas à la hauteur de mes aspirations? Donc, aujourd'hui, on va regarder un homme, Pierre, qui n'était pas à la hauteur de ses aspirations, mais qui était restauré quand même. Et ça, il m'encourage. Il m'encourage, ce gars. Et donc, lui, Jésus, il parle de l'amour. Et donc, Matthieu 26, hein, c'est le dernier repas. Hein. Bon, c'est dans tous les évangiles, cette histoire. Hein, mais j'ai choisi Matthieu 26. Et voilà, on arrive. Matthieu 26, et verset 33, c'est Jésus, il est en train de manger le dernier repas, voilà, je t'aime, moi aussi je t'aime Jésus, voilà. Et après, au milieu de tout ça, il dit, mais un de vous va me trahir, parce qu'il y a toujours une bataille pour l'amour, même pour Jésus, c'était pas facile, une bataille. Quand on veut aimer, comme une église veut aimer, quand on veut aimer le monde, ça veut dire aimer les gens qui connaissent pas Jésus. Quand on doit aimer, il y a toujours une bataille. Et il y a des tentations, il y a toutes sortes d'enjeux. Et après, Pierre, il est attristé, il entend ça. Et lui, il est tout feu, tout flamme à ce moment-là. Il est vraiment engagé. Il est dans le groupe de disciples, ils sont bien. Et donc, verset 33, lui, il dit, « Mais quand tu seras pour tous une occasion de chute, même si tous les autres, voilà, même si tous les autres vont te trahir, tu ne seras jamais pour moi, jamais pour moi. » Et après, verset 35, Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Mais il est sincère, le gars. Il est sincère comme nous. Comme j'ai dit, Seigneur, je ne vais plus faire ce péché encore, je vais sourire à telle et telle personne, je ne vais pas me mettre en colère, je suis sincère, surtout dans des moments d'intimité, quand il est là, quand il est avec nous. Et donc, Pierre, il fait cette promesse. Et Jésus lui dit aussi, attention, pied sur terre, Pierre, tu n'es pas à l'auteur de tes aspirations. Il ne le dit pas comme ça, mais il dit, tu sais, le coq va chanter trois fois, et tu m'aurais renié. Trois fois. Et donc là, on peut voir, ça c'est tragique, Luc 22, 31. « Et là, et encore là, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Oh là là, c'est notre amour est défié. Il y a Satan qui dit « Voilà, je vais mettre tel et tel à l'épreuve. » Et la vie nous met à l'épreuve. Mais Jésus dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Alléluia. Seigneur, dans nos moments de difficulté, merci pour ton intercession pour moi, Seigneur. Que ma foi ne défaille pas dans des mauvais jours. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Affermis tes frères. Alléluia. Alléluia. Et après, c'est en chapitre 22, hein, il faut aller un peu plus loin. Et tu sais, Jésus, il est emprisonné, il est battu. Et après, il y a un feu, hein? Il y a tout le monde qui se chauffe autour d'un feu, verset 55. Ils allumèrent, 22, 55, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Et Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis encore devant le feu. Deux fois, on part de ce brasier. Et tout d'un coup, cet homme qui dit, voilà, je vais mourir pour toi, je vais pas t'abandonner. Et il dit, mais cet homme-là, Pierre, tu étais avec Jésus. Il dit, mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre le vit et dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme, je n'en suis pas. Deuxième fois. Et après, troisième fois, il dit, oh, mais tu es galiléen et tout ça. Et Pierre répondit, toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et c'est terrible quand ce coq chante dans nos propres cœurs, quelquefois. Quand on a fait le péché qu'on ne voulait pas faire. Quand on n'a pas aimé, quand on aurait tellement aimé. Qu'on n'a pas conjugué notre verbe agapé. Et après verset 62, c'est un des versets très émouvants dans la Bible. Il sortit. Et dehors, il pleura amèrement. Et bon, vous n'avez pas besoin de répondre, mais est-ce que vous avez jamais pleuré amèrement? Est-ce que vous avez jamais pleuré amèrement? Oh, pourquoi j'ai fait ça? Ah, pleurer amèrement. Et donc, si l'histoire s'arrête là, c'est un peu triste. Si l'histoire s'arrête là, c'est un peu triste, non? Mais je veux vous donner, dans les 20 minutes qui restent, comment Dieu rétablit Pierre et comment il nous rétablit. Si vous avez jamais pleuré amèrement, et si vous pleurez amèrement, voilà, il y a une manière d'être restauré. Et même quand tu es dans les larmes, même quand tu es dans l'échec, même quand tu es vraiment dans l'échec, d'accord, c'est pas sans valeur. C'est pas sans valeur. On choisit jamais l'échec. Hein. On choisit jamais de renier Jésus. Mais quelquefois, ça nous tombe dessus. Ça nous tombe dessus comme ça et on est cassé. On est cassé. C'est parce que Pierre aimait qu'il était cassé. C'est parce qu'il aimait qu'il était cassé. Et la même chose s'est passée pour David une fois. Hein. Quand il a vraiment fait une bêtise. Hein. Quand il a vu Bathsheba sur son toit, il s'ennuyait, il ne savait pas que faire. Les autres sont partis faire la guerre et lui, il était là. Il voit Bathsheba. Voilà, il est pris. Hérosons-nous. Et après, il fait toutes sortes d'autres choses. Il est sur une pente glissante. Et bon, il doit souffrir pour ça, les conséquences de son péché. Mais il est pardonné. Et à un moment donné, il écrit un psaume. Et le psaume 51 et verset 19. Parce que cet homme est tout cassé devant le Seigneur. Je pense qu'en Pierre, il pleurait amèrement. Il dit, mais comment, en tant que roi, comment est-ce que j'ai pu faire? Il était dans une lutte spirituelle. Je pense que comme Satan avait demandé à éprouver Pierre, combien Satan était sur le dos de David aussi, sur tous ces gens de l'Ancien Testament, parce qu'ils portaient la promesse. Ils étaient que des hommes face à toutes sortes d'enjeux spirituels. Et le verset 19, là, de psaume 51, il dit, mais Seigneur, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Et même nos cœurs brisés et contrits, tu peux juste donner ça à Dieu. Tu peux dire, voilà Seigneur, je suis cassé. Et je suis cassé parce que je t'aime. Et je suis cassé parce que je ne suis pas à l'auteur de mes aspirations. Je suis cassé parce que je fais des bêtises. Je suis cassé. Mais tu offres ça à Dieu. Tu ne laisses pas Satan te condamner. Tu offres ça à Dieu. Et Dieu, comme il dit, c'est tellement humble, on est tellement humilié dans ces moments-là, que Dieu, il peut recevoir quelque chose de notre vie cassée. Il y a quelque chose de la croix là-dedans. Et donc, quand tu pleures amèrement, offre ton sacrifice à l'Éternel. Et ça va racheter quelque chose. Ça va commencer le processus de restauration. Et le pire chose, c'est de t'isoler et de couper la relation avec Dieu. De dire, je suis tellement mauvais que je suis là. Non, allez. Offre ton brisement au Seigneur. Et après, voilà, on va aller au cœur du sujet, Jean, dernier chapitre de Jean. On va revenir à Pierre. Donc c'est Jean 21. Et donc, Jésus est ressuscité, alléluia. Il a passé par la croix. Le pire a été fait. L'homme a tout fait, Satan a tout fait. Et il est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Et les disciples sont là. Et Jésus, il veut se manifester encore à ses disciples. Et donc Pierre est là, il y a d'autres disciples, il y a Thomas, il y a Jean, tous les autres. Et eux, ils sont désemparés. Et surtout Pierre, hein. Il essaie de cacher tout ça, mais il est vraiment désemparé. Et il est tout frustré. Il sait qu'il a trahi Dieu. Il est toujours dans cette phase de non-rétablissement, de non-restauration avec Dieu. Et donc il dit, voilà, j'imagine tout énervé, allez, je vais pêcher. Je vais sortir mes filets de nouveau, allez, je vais dans mon bateau. Si, bon, quelquefois, bon, c'est pas pour te... Non. Quelquefois que c'est les femmes quand elles prennent l'aspirateur, tout énervé. Ça n'arrive jamais, non? Ça n'arrive jamais. Ou on fait quelquefois... Ça n'arrive jamais. Oh, le mari, bien sûr, oh, le mari qui passe. Oh, quand le mari dit, oh, je vais bricoler. Mais il bricole pour sortir la pression, le stress qui est en lui. Et c'est ce que Pierre fait. Il commence à dire, je vais pêcher. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils vont avec lui. Ils sortirent et montèrent dans la barque cette nuit. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Vous imaginez, toute une nuit, ça c'est des heures. Ils laissent leur filet. Il n'y a rien dans le filet. Il n'y a rien. Et quand nous agissons par devoir, quand nous agissons avec notre frustration, notre propre énergie humaine, on ne va rien faire. C'est difficile. Quand c'est une sorte d'énergie humaine, on ne peut rien faire. Quand une église fait de l'évangélisation avec une énergie humaine, avec le poids de sa culpabilité, avec tous ses complexes, avec tous ses devoirs, voilà, on doit le faire parce qu'on doit le faire. Mais on n'est pas réglé en nous-mêmes. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la présence de Jésus qui est manifestée. C'est notre activisme, c'est nos clichés, c'est une sorte de devoir quelquefois. Et même dans nos vies, si on essaye de régler des problèmes par notre propre intelligence, avec la frustration, on n'attrape rien. Ça ne marche pas. Et donc, toute la nuit, ils ont travaillé sans rien attraper. Et quelquefois, il y a les nuits comme ça. On pleure d'amertume, on attend, on offre à Dieu, et on a des nuits sans poisson. Mais, verset 4, et ça c'est un mot que je veux vous dire, le matin venu. Il y a toujours un matin. Vous savez, dans la pensée hébraïque, le jour commence avec le soir et ça va vers la lumière, le matin. Pour nous, on a inversé ça. On commence avec la lumière, on va vers les ténèbres. Mais dans la pensée hébraïque, c'est toujours la nuit. Comme il dit dans la création, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, cette fois dans la création. Et donc c'est parfait, parce que c'est vrai, on passe toujours dans nos soirées, nos nuits. Tout le monde va passer par des nuits, mais nous allons finir avec un matin de résurrection, un matin de vie éternelle. Et donc moi j'aime bien ça, et c'est ce qui se passe ici encore. Le matin venu, le matin va venir, et Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et quelquefois Jésus, il est un peu anonyme pour nous, il n'est pas toujours... Bien sûr je connais Jésus, mais est-ce qu'on le connaît? Oui, on le connaît, mais quelquefois il faut le chercher. Il faut le chercher, il faut l'écouter. Et ça change tout, parce que Jésus, il leur donne un autre commandement. Et il faut que Pierre écoute ce commandement. Ce n'est pas évident, hein, tu as pêché toute la nuit, tu n'as rien attrapé, non? Et Jésus leur dit, verset 6, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, et vous trouverez. » Et ça, c'est le premier pas vers la restauration, d'accord? Premier pas, c'est de jeter le filet sur l'autre côté. Et il faut changer de paradigme, il faut changer de perspective, quelquefois. Et il y a des relations... d'un côté où la voie est bloquée, c'est bouché. On a tellement essayé, Il y a certaines circonstances, c'est trop usé, l'ornière est trop profonde là. Et il faut changer de mentalité. Il faut avoir une autre perspective. Qu'est-ce que votre côté droit dans une situation, dans une relation? Parce que quelquefois, j'ai été dans des relations, et c'est toujours les mêmes paroles, toujours les mêmes conclusions. Et ça change rien, on n'attrape rien. Et quelquefois, il faut que quelqu'un bouge, qu'il y ait une autre manière de concevoir la relation ou la situation, d'essayer d'autres choses. Bon, il y a Einstein qui a dit, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. D'accord? La folie... c'est de faire toujours la même chose. Allez, on pêche à gauche, on pêche à gauche, on pêche à gauche. Allez, change de côté. Oh non, on pêche à gauche, on a toujours fait ça. On pêche à gauche. Non, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et je pense que pour l'Église d'aujourd'hui, pas juste notre Église de Wavre, mais l'Église avec un grand E, il faut aussi changer de côté quelquefois. Parce que quelquefois, notre message... gloire à Dieu quand ça porte du fruit. Mais quelquefois, je dis, on garde la vérité, bien sûr, mais le contexte culturel a changé. Et on doit changer de côté pour gagner une nouvelle génération. Les jeunes et tout ça, quelquefois, il y a une autre manière de parler, une autre manière de faire, une autre manière de concevoir. Je parlais avec quelqu'un hier, une bonne amie, elle m'a dit, tu sais Robert, la vie est tellement compliquée pour beaucoup de gens. Elle me dit, Robert, la vie est tellement compliquée pour beaucoup de gens. Bon, elle voulait me dire, vous savez, c'est pas aussi facile juste de venir à l'église comme ça. Et en l'écoutant, bon, mais c'est quelqu'un qui a une foi, hein, qui a une foi qui grandit. Et quelquefois, ça me défie. J'ai pas des réponses, hein. Moi, je suis le premier à devoir apprendre. Ça m'effraie. Moi, j'ai bien l'habitude de mettre le filet à gauche, hein. C'est même pas si les ongles déroulent à gauche ou à droite, hein. Mais changer de filet, changer de filet. Et je pense que c'est un défi pour nous tous. Si nous voulons rester pertinent et actuel et efficace dans ce que nous faisons, il faut, et même de grandir et de changer là où il y a les voies sans issue, il faut être inspiré. Demande au Saint-Esprit de vous inspirer. Et ce qui va vous inspirer, c'est la parole de Jésus. D'accord? Il ne faut pas faire ça juste parce que je le dis. Il faut écouter Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? Là où je suis dans une situation stérile, là où il y a une relation stérile, là où il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je dois changer, Seigneur? On peut demander à l'autre de changer, mais non, qu'est-ce que moi, je dois changer? Et écoute bien, et peut-être il va vous donner une autre perspective sur la situation. Et après, ils ont attrapé beaucoup de poissons, ça a marché. 153, je pense. 53 Gros poisson. Et quand je lisais ça la semaine dernière, j'ai dit, oh mais Seigneur, ça serait bien. Tu sais, j'ai eu projet 50. Alors là, on est en train de diminuer maintenant. Et donc, c'est dans un temps où on diminue. J'ai dit, mais est-ce que j'ose dire projet 150? Bon, 300, 150. Et avec cette vision de la marée montante, pourquoi pas? Mais peut-être il faut que chacun de nous en soit inspiré pour dire où est-ce qu'il faut pêcher là, comment est-ce qu'il faut faire. Mais bon, je laisse ça aussi parce que je ne vais pas dire c'est exactement ce que le Seigneur m'a dit et ça va sûrement s'accomplir. C'est un peu mon aspiration. Et je ne suis pas toujours à l'auteur de mes aspirations. Et donc je le fais humblement. Et donc, changer de côté. Mais il y avait une plus grande chose là, peut-être la chose la plus importante, quand Pierre était restauré. Et après, il était là et il a vu que c'était le Seigneur. Il a vu que c'était le Seigneur. Et ce que j'aime beaucoup, il a préparé un brasier encore. Il y avait un brasier, il y avait un feu. Et je pense que Pierre dit, mince, ce feu, ça me fait penser à quelque chose. Mais c'était très gentil. Il a ramené à son moment d'échec d'un côté. Mais en même temps, il a dit, venez manger. Allez, venez manger. Et il a créé un espace relationnel. Il a pris le temps pour créer un espace relationnel. Et pour restaurer, pour aller plus loin dans des relations. On ne peut pas juste le faire vite fait. Il faut qu'il y ait un espace relationnel. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il ne nous casse pas avec tac. Il dit, allez, discutons ensemble un peu. Allez, on va manger. On va manger. Pierre, viens manger à table. Et là, il voit ce brasier, il y a des poissons dessus. Verset 12, venez manger. Venez manger. Et après, verset 15, après qu'ils eurent mangé. Ah, merci Jésus. Après, il a dit, mange. Tu sais, nous, on veut dire, on veut. Il n'a pas commencé à dire, mais Pierre, tu te rappelles, tu m'as nié, tu m'as renié et tout ça. Il n'a pas commencé avec ça. Il a commencé à dire, voilà, on va manger ensemble. Et souvent, nous, on est trop vite. On est trop vite dans nos manières de vouloir régler les choses. Et on veut aller plus loin que notre capital relationnel. Souvent, on va aller plus loin que notre capital relationnel. Donc, nos paroles, même si on dit la vérité, c'est mal reçu, parce qu'on n'a pas mangé ensemble. Bon, manger ensemble, ça va, mais même littéralement, quelquefois, Jésus a littéralement mangé avec les disciples avant. Lui, le Fils de Dieu, lui, le tellement spirituel, il prépare le poisson, il est à table avec les gens. Et c'est pour ça que pratiquer l'hospitalité, c'est une bonne chose, parce qu'on fait connaissance l'un l'autre. Et quand vous avez mangé avec quelqu'un, après, c'est comme si vous pouviez parler, on peut commencer à discuter, dire des choses un peu difficiles. Et là, il va, après avoir mangé, c'est là où c'est le moment dramatique. Il faut imaginer Pierre. Et trois fois, là, il avait nié trois fois et maintenant il doit répondre à trois questions. Et donc, on va conjuguer encore le mot amour parce que c'est intéressant ici. Il dit, verset 15, Simon Pierre, Simon, fils de Jonas. Il dit deux fois son nom, il sait qu'est-ce qui va venir. M'agapes-tu? M'agapes-tu plus que tous les autres? Parce qu'il a dit, oh, moi, je t'aime plus que tous les autres. Il dit, m'agapes-tu plus? Et après, Pierre, il lui répondit, et c'est intéressant sa réponse. Oui, Seigneur, tu sais que je te filéo. Ah, c'est bien de conjuguer le verbe. Jésus dit, est-ce que tu m'agapes? Aspiration, obéissance, sacrifice. Pierre, je ne suis pas à l'auteur. Je te filéo. C'est bien déjà, mais je te filéo. Ah, mais Jésus, déjà, avec, même quand Pierre n'est pas à l'auteur, il lui confie quand même une responsabilité. Ah, j'aime bien ça. Parce que toute ma vie, je n'ai pas été à l'auteur. Mais Dieu m'a donné l'opportunité de le servir. Et il a dit, mais allez, nourris ou prends soin de mes agneaux. Bosco en grec. Hein. Nourris. Nourris mes agneaux. Donne de la nourriture à mes agneaux. Et après, mais quand même, il demande une seconde fois quand même, parce qu'il veut faire une vraie restauration, Pierre. Et il lui demande une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'agapes-tu ? » Et Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je te filio. » Et Jésus dit, « D'accord, sois le berger de mes brebis. » Encore, il lui donne une responsabilité, même s'il n'est pas encore à la hauteur. Et verset 17, c'est ça, vraiment pénible, hein, dur. Il lui dit pour la troisième fois, et c'est là où Pierre casse, hein, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Me filio-tu ? » C'est Jésus qui se baisse au niveau de Pierre. « Me filio-tu ? » Ça ne sort pas dans le français, hein, c'est « MMM hein, ». C'est comme ça, il faut pas... Mais Jésus dit, « Voilà, d'accord, j'accepte que tu n'es pas à l'auteur. Je sais que tu as fait. Je sais que tu n'es pas parfait. Tu sais tout ce que tu fais. Je sais tout. » Et donc moi, je vais aller à ton niveau. Je ne vais pas te demander d'être à mon niveau. Je vais te rencontrer là où tu es, à ton niveau de filio. Et donc il dit, est-ce que tu me filio? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Et donc cette tristesse, c'était parce que Pierre se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Mais c'est bien pour son orgueil. Il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Et il dit, il était attristé que il lui demande pour la troisième fois, « Me filio-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, » et magnifique phrase, hein, quelle belle prière tu peux prier. « Seigneur, tu sais toutes choses. » Ah, t'as pas besoin de te confesser devant un curé, hein, tu peux aller dire devant Jésus, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Et heureusement que c'est que lui qui sait. J'ai dit à ma femme l'autre jour, « Ce que tu vois mal en moi, c'est que la partie visible de l'iceberg. Hein, » Mais Jésus, il voit toute chose. Tu vois toute chose. Tu vois toute chose. Et tu sais que je te filio. Tu sais que je suis en train d'essayer de grandir. Et je ne peux pas dire agapé. Je ne peux pas dire, ce serait hypocrite de dire agapé. Parce que je t'ai nié trois fois. Et donc, mais je te filio. Et tu vois un homme brisé, mais un homme qui est en pleine restauration parce qu'il est dans la vérité. Et donc, je peux terminer là, mais quand même, la dernière chose. Il dit quand même, prends soin de mes brebis. Encore, il lui donne une responsabilité. Et souvent, moi, je dis, j'aspire moi-même de tout mon cœur, comme nous tous, j'aspire à l'agapé, l'obéissance, sacrifice. Mais Christ m'accepte avec mes limites. Qu'on est toute chose. Et Christ t'accepte avec tes limites. Il t'accepte avec tes échecs. Il t'accepte. Mais est-ce que c'est une sorte de laxisme que je donne? Allez, voilà, on va vivre au plus bas. Non. Il t'accepte comme tu es, mais il te donne envie. Il te donne envie de grandir. Et c'est ce qu'il dit à la fin avec Pierre. Il dit, mais en vérité, verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu vois, quand tu avais cette énergie humaine, quand tu étais, voilà, je vais mourir pour toi, Jésus, voilà. Tu sais, on est les chrétiens, on va conquérir le monde. Tu vois, et moi, je connais ça, hein, je connais ça, je suis toujours là, un peu, j'espère. En vérité, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais là où tu voulais. C'était moi, je fais, même pour Dieu, hein, tu fais, moi je suis mieux que les autres disciples, je vais y aller. Mais, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quand tu auras pleuré amèrement, quand tu auras vécu quelques années, quand tu auras roulé ta bosse dans la réalité de l'univers et ton univers, quand tu seras plus mûr, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Et un autre te l'attachera. Et tu sais, il allait être revêtu par quelqu'un d'autre. Et Jésus avait dit aux disciples, attends-moi à Jérusalem et vous serez revêtus d'une puissance d'honneur. Et finalement, Pierre devait attendre encore d'être revêtu de puissance, revêtu du Saint-Esprit. Mais vous savez, le perchoir du Saint-Esprit, le perchoir de la colombe, c'est la croix. C'est le brisement du cœur humain. Et donc là, Pierre allait attendre. Et il allait vraiment paître les brebis. Il allait vraiment devenir le berger parce qu'il allait recevoir encore le Saint-Esprit. Et après, il dit, cet esprit va te mener là où tu ne veux pas aller. Mince. Mais je pense que c'est là où la chair ne veut pas aller. Là où la chair ne veut pas aller. Souvent, je vois où le Seigneur m'a emmené, les choix, là où il m'a emmené. Ce n'était pas toujours les endroits de gloire où j'aurais pu choisir humainement. Tu vois? Mais souvent, c'était des voies d'humilité, les voies que je n'aurais pas forcément choisies. Mais c'est les voies que ta chair ne choisisse pas qui sont la voie que Dieu prépare pour toi souvent. Il ne faut pas avoir peur de l'humilité, des petits commencements. Et il dit ça c'est pour Pierre maintenant, pour dire de quelle mort il allait glorifier le Seigneur. Et vous, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, vous savez comment Pierre est mort. Là, il avait renié à ce moment-là. Mais après, il a été revêtu du Saint-Esprit et il servait Dieu bien, il était un pilier de l'Église et tout ça. Et un jour, avec, je pense que c'est Néron qui voulait le cru. Non, c'est Paul. Mais là où il c'était un empereur romain, et il dit, oh, je vais te crucifier, Pierre. Et Pierre a dit, je ne mérite pas d'être crucifié comme ça, mais à l'envers. Et il est mort pour glorifier Dieu. Et là, je pense, en mourant, Jésus a pu dire, mais Pierre, m'agapes-tu? Et Pierre disait, Seigneur, je t'agape. Je t'agape. Et je pense que c'est l'appel que Dieu donne à nous tous. M'aimes-tu, filio? Oui, tu sais que je te filio, mais je veux aussi que tu m'agapes. Et là, c'est le cadeau du Saint-Esprit. Ça n'a rien à faire avec notre chair. Mais le cadeau du Saint-Esprit, avec le temps, avec la croissance, avec la maturité, où on peut dire, oui Seigneur, tu sais que je t'agape. Et après Jésus dit, suis-moi, suis-moi. Peut-être ce matin, il te dit, allez, suis-moi encore. Je t'accepte avec tes limites, avec tes échecs. Tu peux commencer à me suivre là où tu es, et on va faire route ensemble, et tu verras. Ou peut-être il y a une autre étape de ta vie, où tu dis, voilà, j'aspire vraiment Seigneur. Te suivre encore. Guéris-moi, change-moi, restaure-moi. M'aimes-tu, m'agapes-tu, me filio-tu? Il est à notre niveau. Certains sont l'agape, d'autres sont filio. Si vous êtes Eros, vous avez besoin de connaître Jésus. S'il n'y a que l'Eros, il faut un peu de filio, il faut un peu d'agape. Mais suivez-moi, dit le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Tu connais toutes choses. Tu connais là où j'ai pleuré amèrement, Seigneur, sur mon péché, sur mes échecs, sur un tas de situations. Tu connais toutes choses, Seigneur. Et tu sais qu'au fond de mon cœur, je t'aime. Et mon amour est vacillant. Je t'aime, filio, et j'aspire à l'agapé. Et je veux te suivre, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.